proposer de fermer la porte, éventuellement. Ce n'est pas du tout un symbole de hors de l'Église, pas de salut. Hein. C'est simplement que, oui, pour que nous échappions au bruit, au brouhaha qui, quelquefois, se produit dans le hall du centre. Oui, avant de commencer aussi, je voulais confirmer qu'il y a bien cours jeudi prochain. Hein. Donc jeudi prochain, je le précise parce que je crois que en fait c'est une, il y a 15 jours de vacances pour les scolaires, mais donc ici même, c'est une semaine normale de cours. Par contre, dans 15 jours, hein, il n'y aura pas de cours. Hein. Dans 15 jours, le jeudi 31 octobre, la veille de la Toussaint, il n'y aura pas de cours, c'est la semaine de vacances. Après l'introduction générale du parcours la semaine dernière, nous allons nous engager dans la première partie qui s'intitule « Problématique biblique du salut ». Problématique biblique du salut. Il me semble en effet très important de commencer par là, d'essayer de prendre acte de la manière dont l'Écriture sainte parle du salut, et je le ferai de la manière suivante. Vous avez un plan, vous avez simplement aujourd'hui une feuille donnant le plan, parce que, évidemment, il n'était pas question de photocopier toute la Bible, mais dans les séances suivantes, il arrivera assez souvent que je donne 2, 3, 4 feuilles avec des textes d'auteurs de l'époque des Pères de l'Église, ou du Moyen-Âge, ou de l'époque contemporaine. Mais aujourd'hui, donc, la matière de mon propos, c'est l'Écriture sainte, et je vais procéder, comme vous le voyez par ce plan, je vais procéder en 3 temps, plus exactement 2 temps plus 1. Le premier temps et le deuxième temps seront consacrés à l'Ancien et au Nouveau Testament. Dans ces 2 premiers temps, je me contenterai de rappeler un certain nombre de données majeures qui ressortent des Écritures. Je suis obligé de passer par là. Cela sans doute paraîtra simple, trop simple à beaucoup d'entre vous, mais il faut le faire, il faut prendre le temps de cette rapide synthèse des principales données de l'Ancien et du Nouveau Testament à propos du salut. Mais, comme je l'annonçais, il y aura un troisième temps qui sera d'un autre ordre. Ce sera le temps le plus développé. Je l'intitule de façon un petit peu ambitieuse « Théologie du salut sur le fondement des Écritures ». Je voudrais essayer, dans ce troisième temps, de présenter de façon systématique, entre guillemets, les orientations, les axes majeurs d'une théologie chrétienne qui puisse vraiment prendre acte de ce que nous dit l'Écriture sainte sur le salut. Alors, vous pourrez dire, mais quand j'aurai fait cela, ben, ce sera fini, le cours pourrait s'arrêter. Ben non, justement. Parce qu'à partir de là, nous verrons dans la deuxième partie et dans la troisième partie du cours, nous verrons dans quelle mesure les approches du salut dans la tradition ancienne de l'Église et à l'époque contemporaine sont cohérentes avec ces principes fondamentaux d'une théologie chrétienne du salut. Nous verrons aussi peut-être dans quelle mesure ils ne sont pas cohérents avec ces principes. Et dans la quatrième et dernière partie du parcours, alors j'essaierai à nouveau de proposer des éléments de réflexion pour une approche contemporaine du salut. Je pense qu'il est tout à fait essentiel de partir de là. Que peut-on dire théologiquement sur le salut en prenant acte des enseignements majeurs de l'Écriture sainte? Donc, premier temps, que peut-on retenir de l'Ancien Testament à propos du salut? Je rappelle d'abord quelque chose de tout à fait élémentaire, c'est que Il n'y a pas dans la Bible un seul mot qui corresponde à ce que nous entendons par salut. Mais il y a une diversité de mots, il y a une pluralité de langage pour parler du salut. Mais je dirais que, quelle que soit leur diversité, les mots correspondant à ce que nous entendons par salut renvoient tous à une expérience fondamentale. Une expérience qu'on pourrait dire existentielle. Qu'est-ce que c'est cette expérience ? Je la résumerai ainsi. C'est l'expérience d'être tiré d'un danger qui pouvait être ou qui pourrait être mortel, tout simplement. L'expérience d'être tiré d'un danger, l'expérience d'échapper à un danger qui, de soi, risquait de nous faire périr. Voilà ce qu'est fondamentalement l'expérience visée à travers la catégorie de salut. Mais il est évident que, selon la nature du danger dont il s'agit, le mot correspondant à ce que nous appelons salut va pouvoir se décliner de différentes manières. Dans certains cas, par exemple, l'acte de sauver dans la Bible va être exprimé à travers le verbe protéger, protéger quelqu'un du danger. Dans d'autres cas, il va s'exprimer à travers la catégorie de libération. Quelqu'un qui est prisonnier, bon ben voilà, l'expérience du salut pour lui, ça va s'exprimer notamment par ce concept ou cette image de la libération. Dans d'autres cas, je pense à des personnes atteintes dans leur santé, comme Ézéchias au livre d'Isaïe, eh bien, l'expérience du salut va se traduire par l'image ou le concept de la guérison. Dans d'autres cas encore, ce sera le langage du rachat, la rédemption. Mais il y a bien d'autres mots qui sont employés, comme le mot de la victoire. Voilà, on risquait de subir la défaite, et voici que la victoire va nous être donnée. C'est une manière très concrète aussi dans la Bible, spécialement dans l'Ancien Testament, de dire quelque chose du salut. Ça peut être aussi tout simplement le langage de la vie. On risquait de mourir et voici qu'on est vivant. De manière très concrète encore, de dire le salut. Ce que je souligne en tout cas, c'est que dans tous les cas, il s'agit de termes qui renvoient à des expériences existentielles éminemment concrètes. La Bible ne nous transmet pas d'abord une théorie du salut. La Bible nous transmet d'abord une expérience, l'expérience d'être arraché à un péril, à un danger qui risquait d'être mortel. Voilà ce que je voulais dire à titre de préliminaire. Alors, cela étant posé, voyons plus précisément comment il est question du salut dans l'Ancien Testament. Première chose à noter, c'est que l'idée même, le mot même de salut est courant dans l'Ancien Testament. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y a une pluralité de mots qui renvoient à l'expérience d'être sauvé. Il y a quand même un mot spécialement important. Est traduit justement par « sauver ». C'est l'un des termes privilégiés. Je cite en particulier ce terme, hein, puisque ce mot est tellement important qu'il entre parfois dans la composition de certains noms propres, comme par exemple Josué, ou encore Osée, ou encore Isaïe, et puis, petite anticipation, bien sûr, Jésus. Hein, parce que Jésus, Dieu sauve, hein, le nom même de Jésus signifie « Dieu sauve ». Sur la racine donc, du mot hébreu « yassa ». Alors, quel que soit le mot, hein, que ce soit le mot « yassa » ou bien que ce soit d'autres termes comme ceux que j'ai énumérés, « libérer »,« racheter », etc., « guérir » et bien d'autres, quel que soit le mot employé, on peut dire que dans l'Ancien Testament, la notion de salut apparaît comme une notion profondément liée à l'expérience de se souvenir ou à l'expérience d'attendre. La mémoire, d'un côté, et l'attente de l'autre. D'une part, en effet, on fait mémoire de Dieu sauveur, et d'autre part, on est dans l'attente d'un sauveur à venir, ou d'un salut à venir. Alors, je développe un tout petit peu chacun de ces deux versants. Premier versant, la mémoire d'un Dieu sauveur. C'est impressionnant de voir à quel point dans l'Ancien Testament on raconte la manière dont le Seigneur déjà a pu sauver son peuple, ou la manière dont il a pu sauver telle ou telle personne. En général, d'ailleurs, quand on rappelle ainsi la manière dont Dieu a déjà exercé son action de sauveur, en général, quand on fait cela, c'est qu'on se sent un peu menacé et qu'on a besoin précisément de faire mémoire des actions du Seigneur dans le passé pour être confirmé dans l'espérance. Alors, il serait tout à fait facile de rappeler un certain nombre de ces situations dans lesquelles le Seigneur a été perçu comme sauveur. J'en énumère un certain nombre, tout ça est très très connu, hein, mais en suivant plus ou moins l'ordre des livres bibliques, Noé, dans la Genèse, hein, Dieu a sauvé Noé et quelques autres lors du déluge. Voilà. Là, c'est l'image très concrète, hein, très, très concrète. Hein. S'il n'y avait pas l'arche, eh bien, voilà, ce serait la perdition complète de l'humanité. Donc, manière concrète déjà de dire comment Dieu est intervenu pour sauver au moins Noé et quelques autres. Je prends ici l'ordre des livres bibliques. Nous savons bien que la composition des récits n'est pas conforme à l'ordre de la composition, diffère de l'ordre dans lequel se présentent les livres bibliques. Toujours dans la Genèse, prenons aussi l'exemple de Lot. Dieu sauve la vie de Lot. Pensons aussi aux fils de Jacob, qui sont sauvés par l'entremise de Joseph, toujours dans le livre de la Genèse. Surtout, il y a bien sûr un événement sauveur qui tient une place considérable dans la mémoire d'Israël, c'est bien sûr l'événement de l'Exode. L'événement de l'Exode, la sortie d'Égypte, Dieu sauve Israël en le rachetant, en le libérant. Il y a plusieurs termes qui sont employés dans le texte biblique. Mais après la sortie d'Égypte, une fois que le peuple a atteint la terre de Canaan, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles Dieu s'est aussi présenté, s'est révélé comme sauveur. En particulier, à propos de David, Dieu a sauvé David. Ce sont que quelques rappels, parce qu'on pourrait très bien s'arrêter sur le livre des juges, sur le livre de Josué, comment Dieu sauve à travers ces personnages de l'histoire sainte. Il y a en particulier la figure de David qui est mise en évidence. Dieu a sauvé David. Et d'abord, Dieu a sauvé David, ça veut dire quelque chose de très concret. C'est-à-dire, Dieu a donné la victoire à David sur Saül, où il a donné la victoire à David, victoire sur le peuple de ses ennemis. Il a sauvé son peuple par David, il a sauvé son peuple de la main de ses ennemis. Et puis, ça continue tout au long de l'histoire sainte, en particulier dans le deuxième livre des rois, on apprend comment le roi d'Assyrie met le Seigneur au défi de sauver son peuple. Et surtout, il y a toute la littérature prophétique qui se développe au 8e, 7e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et le message des prophètes, c'est souvent de rappeler comment Dieu a sauvé son peuple et comment il peut à nouveau le sauver si ce peuple se convertit. Dans la littérature prophétique, on voit revenir très, très souvent des formules du genre le peuple d'Israël doit se tourner vers le Seigneur afin d'être sauvé. Par exemple, Jérémie, chapitre 4, verset 14. Jérémie 4, 14. Israël se tourne vers le Seigneur afin d'être sauvé. Mais il arrive aussi que, on voit ça chez les prophètes, le peuple d'Israël se plaint parce que le salut promis n'arrive pas, n'arrive toujours pas. Pensons aussi, bien sûr, au psaume, la prière du psalmiste qui est si souvent orientée vers Dieu Sauveur. Seigneur, sauve-moi. Mais ce que je voudrais principalement souligner à travers ce premier point, c'est que pour dire l'attente du salut, on éprouve le besoin de rappeler ce que le Seigneur a déjà fait. Et c'est quelque chose qui se retrouvera d'ailleurs très souvent dans la liturgie chrétienne, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. On fera mémoire des gestes salvifiques de Dieu dans l'histoire sainte. Et ce rappel même, cette anamnèse des gestes sauveurs sera en quelque sorte ce qui fortifiera l'espérance chrétienne. Donc ça, c'est le premier versant dans l'Ancien Testament, la mémoire d'un Dieu sauveur. L'autre versant, c'est alors celui qui est tourné vers l'avenir, l'attente d'un sauveur à venir. Même si Israël a fait l'expérience d'être sauvé, ou même si tel personnage dans l'histoire biblique a fait l'expérience d'être sauvé, on se rend bien compte que ce salut n'est pas complet. On se rend compte aussi que dans certaines périodes, comme par exemple la période de l'exil, en particulier au VIe siècle, eh bien, on se retrouve de nouveau en danger mortel. Et que fait-on à ce moment-là? Eh bien, on se tourne vers le Seigneur, mais cette fois pour lui demander de nous sauver à nouveau. Et c'est ainsi que se développe et se précise de plus en plus l'attente d'un salut à venir. C'est quelque chose qui est extrêmement présent dans toute la littérature prophétique, en particulier dans le deuxième Isaïe, dans le livre de Jérémie, chez Ézéchiel, l'attente d'un salut à venir, l'attente qui est une espérance que le Seigneur sauvera son peuple. Là encore, ça peut s'exprimer de manière très concrète. Pour le peuple qui est en exil à Babylone, c'est tout simplement l'espérance que Dieu, le Seigneur, ramènera son peuple sur la terre d'Israël, que le temple de Jérusalem pourra être à nouveau construit. Une espérance très très concrète. Mais l'espérance prend d'autres formes aussi. Le Seigneur sauvera son peuple de ses fautes, de ses péchés. Le Seigneur sauvera son peuple, en particulier par le don de son esprit. On lit ça chez Ézéchiel en particulier. Et on constate que cette espérance du salut qui habite des hommes au sein du peuple d'Israël, ou qui habite le peuple d'Israël en son entier, ce message, cette espérance du salut, c'est une espérance qui concerne non seulement le peuple d'Israël, mais qui s'étend au-delà d'Israël. C'est une espérance pour l'humanité, une espérance pour la terre entière, de plus en plus, avec cet universalisme qui se développe avec le deuxième Isaïe ou avec d'autres textes de la littérature post-exilique. J'ajoute que ce salut qui est attendu, bien sûr, on lui donne un contenu très concret, un salut pour ce monde, mais on lui donne aussi une connotation eschatologique, une connotation donc qui concerne la fin des temps. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette espérance du salut, elle ne doit pas se limiter à l'espérance d'un salut terrestre sous la forme de Jérusalem qui peut reconstruire son temple ou de Israël qui peut être en paix au milieu des nations, mais c'est aussi l'attente d'un salut qui concerne l'au-delà. Et en particulier, ce qui permet à cette espérance pour l'au-delà de s'exprimer, de se manifester de plus en plus, c'est l'expérience que, en cette terre, sur cette terre, des gens qui vivent dans la justice ne connaissent pas forcément le bonheur. C'est très sensible, surtout dans les derniers siècles avant la venue du Christ. Je pense surtout à la littérature sapientielle, le livre de la sagesse, mais d'autres livres aussi. On voit que, comme précisément il y a des gens qui vivent dans la justice et qui ne sont pas heureux en cette terre, alors que par ailleurs des impies ou des injustes peuvent connaître le bonheur, eh bien, les sages d'Israël sont de plus en plus conscients du fait que l'espérance du salut n'est pas simplement un salut pour cette terre, mais que c'est l'espérance d'un salut par-delà la mort. C'est dans le cadre de cette expérience, notamment, qu'émerge et que se développe de plus en plus l'espérance dans une vie plus forte que la mort, l'espérance de la résurrection. Donc, on constate que l'espérance du salut, nourrie elle-même par la mémoire de ce que Dieu a fait dans le passé pour son peuple, l'espérance du salut s'est enrichie au long des siècles, comme une espérance de bonheur, comme une espérance de paix, comme une espérance de libération, mais aussi comme une espérance de vie par-delà la mort, une espérance de résurrection. Et j'ajoute enfin que dans cette espérance d'Israël, une attention est portée au fait que ce salut doit advenir par quelqu'un en particulier, alors quelqu'un qui est nommé de diverses manières, c'est le nouveau David que l'on attend, le nouveau Moïse que l'on attend, le Messie, bien sûr, le Messie. C'est en tout cas aussi le Fils de l'homme qui doit venir sur les nuées du ciel. En tout cas, quelqu'un en particulier qui est attendu comme sauveur, quelqu'un dont on attend qu'il puisse apporter la victoire et la vie de manière définitive. Mémoire, donc, et espérance. Et dans l'instant présent de l'être humain, qui parfois se trouve affecté par le malheur ou par l'épreuve, eh bien, cette mémoire et cette espérance se conjuguent. Et la trace majeure de cette conjonction entre la mémoire et l'espérance, c'est la prière des psaumes. Puisque souvent, dans les mêmes psaumes, vous avez le rappel de ce que Dieu a fait pour son peuple et l'espérance de la victoire sur les ennemis ou la victoire définitive sur la mort. J'en viens maintenant, deuxième temps, au Nouveau Testament. Alors, pour le Nouveau Testament, bon, bien sûr, l'expérience fondamentale du salut, elle est liée à la venue de quelqu'un, Jésus de Nazareth, qui va être proclamé comme sauveur. Vous savez que c'est le sens de cette sigle, Hominum Salvator, Jésus, sauveur des hommes. Et comme je le rappelais tout à l'heure, le nom même de Jésus signifie Dieu sauve. Donc, le salut, première chose à dire à propos du Nouveau Testament, le salut va être lié à la personne même de Jésus. Cela dit, ce n'est pas d'emblée, bien évidemment, que Jésus a été ainsi perçu comme sauveur. Et il faut distinguer ici le cheminement des disciples avant Pâques et ce qui s'est passé à partir de Pâques. Alors, si nous considérons d'abord la période avant Pâques, déjà durant cette période pré-pascale, Jésus se révèle comme posant des actes qui apportent le salut, ou qui apportent quelque chose du salut de Dieu. Qu'est-ce que sont, ces actes? Eh bien, ce sont tout simplement les actes de guérison, les actes par lesquels Jésus chasse des démons, ou d'autres actes dont témoignent les évangiles, d'autres actions étonnantes, paradoxales de Jésus. Paradoxa, c'est l'un des mots qui est employé dans le Nouveau Testament pour qualifier ses actions. Lorsque Jésus, par exemple, sauve les disciples sur le lac de Tibériade, qui est secoué, agité par la tempête, ou bien lorsqu'il tend la main à Pierre, hein, qui risque de se noyer, hein, Pierre marchant sur les eaux dans l'évangile de Matthieu, ou encore, autre épisode, les épisodes de résurrection, entre guillemets, hein, lorsque Jésus arrête le convoi funèbre, la veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm, qu'il le rend à la vie, qu'il rend à sa mère, ou encore, bien sûr, l'épisode de la résurrection, entre guillemets, de Lazare, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un retour de Lazare à la vie dans les conditions actuelles de l'existence, et non pas de la résurrection au sens fort du mot, au sens où elle sera employée à propos de Jésus. Alors, toujours est-il que, avant Pâques, donc, les évangiles rapportent un certain nombre de ces actes, de ces actions étonnantes, de ces signes, comme dit l'évangile de Jean, dans son langage privilégié, ces actions étonnantes ou ces signes à travers lesquels Jésus apporte quelque chose du salut de Dieu. Ce salut, il ne se manifeste pas simplement à travers ces actions étonnantes de guérison, expulsion des démons, etc. Il se manifeste aussi, toujours dans la période pré-pascale, par le pardon, les actes de pardon. C'est une autre manière, un autre registre en quelque sorte, de l'action de Jésus, une autre manière pour lui de communiquer le salut de Dieu. La pécheresse qui est pardonnée se trouve du même coup sauvée. Ou encore, pensons à l'épisode de Zachée dans l'évangile de Luc. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Avec la conversion de Zachée, et le pardon que Jésus lui donne. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Formule employée par Jésus lui-même à propos du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, le salut apparaît dans le Nouveau Testament à travers ces récits des évangiles pour la période précédant la passion et la résurrection, le salut apparaît dans cette double dimension. À la fois salut par rapport à des situations d'épreuve, de maladie, de détresse, et d'autre part, un salut sous la forme du pardon, de la miséricorde, de la compassion qui prend corps dans ces paroles de pardon. Et il faut bien voir que, d'après le Nouveau Testament, ces actes extraordinaires de Jésus sont perçus comme étant du même mouvement des actes de Dieu, qui seul peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul. On lit ça dans l'épisode de la guérison du paralytique. Donc il s'agit bien, c'est bien quelque chose du salut de Dieu qui est ainsi transmis à travers ces actes de Jésus. Mais nous recueillons aussi de ces récits des évangiles pour la période précédant Pâques, nous en recueillons aussi l'insistance sur la foi, l'importance essentielle de la foi. L'essentiel, c'est de croire, l'essentiel, c'est d'accueillir avec foi l'évangile du royaume. Et Jésus dit lui-même cela de la façon la plus forte, à travers cette expression qui revient plusieurs fois dans les évangiles, « Ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a sauvé. Je donne à titre d'exemple l'épisode de la guérison des 10 lépreux dans l'évangile de Luc. C'est un exemple magnifique parce qu'on voit bien qu'il y a d'abord il y a un acte de guérison qui est pratiqué. Jésus guérit les dix lépreux, au moment même où ils se rendent, suivant la parole de Jésus, ils vont trouver le prêtre, selon le rituel, selon ce que prescrivait le rituel juif. Et en cours de route, ils sont guéris. Le texte dit qu'ils sont purifiés. Purifiés ou guéris. Le texte ne dit pas qu'ils soient sauvés. Enfin, c'est déjà beaucoup. Ils sont purifiés ou guéris. Mais il y a l'un de ces lépreux seulement qui revient vers Jésus. Et c'est seulement à ce lépreux qui revient vers Jésus pour rendre gloire à Dieu, c'est seulement à lui que Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Il y a une distinction qui est faite entre guérir et sauver. L'insistance est mise sur la foi. Du coup, d'ailleurs, il y a une contrepartie. C'est que là où il n'y a pas la foi, eh bien, il risque de ne pas y avoir de salut. Et de fait, l'Évangile ne manque pas de paroles qui mettent en garde contre l'absence de foi. Apistia, dans le grec du Nouveau Testament. Il y a même des paroles sur lesquelles on aura sans doute l'occasion de revenir du fait des controverses de l'époque d'Augustin. Des paroles qui laissent entendre que la porte est étroite, qui disent explicitement que la porte est étroite et que elle n'est pas ouverte à tous et que en fait beaucoup seront perdus. Alors, comment interpréter ces paroles, c'est une autre question. On verra qu'il y a eu dans l'histoire d'importants débats à ce sujet. Enfin, retenons en tout cas de manière positive pour le moment cette insistance de Jésus sur la foi. Insistance tellement forte qu'un jour, les disciples, comme découragés, en viennent à lui demander « Mais alors, qui donc sera sauvé ?» Voilà. Donc c'est tout cela que nous pouvons recueillir de la période pré-pascale. La présence d'actes de salut, sous les deux formes que j'ai dites, et l'insistance sur la foi. Avec l'événement de Pâques, advient une nouveauté décisive. Nouveauté de la résurrection, Jésus est reconnu par certains comme étant vivant par-delà la mort. Dieu l'a ressuscité. C'est cela qui est par excellence la bonne nouvelle du salut. Cet homme que l'on avait vu mourir sur la croix, Dieu l'a relevé d'entre les morts. C'est au fond le contenu essentiel de l'annonce du salut. Dieu l'a ressuscité. Je le dis dès maintenant parce que, dans les siècles ultérieurs, parfois on oubliera cela. L'accent sera mis sur la croix. On est sauvé par la croix. Ce qui ressort quand même d'abord des évangiles, c'est que le cœur de l'annonce du salut, c'est que justement, Dieu a ressuscité son Fils et que la mort n'a pas eu le dernier mot. Ô mort, où donc est ta victoire, dit saint Paul. Donc, à partir de cet événement de Pâques, de la nouveauté décisive qu'il apporte, ce qui devient premier, c'est cette bonne nouvelle que Jésus lui-même a été sauvé de la mort. Et par ce fait même, se trouve révélée en plénitude la filiation divine de Jésus. Si cet homme, Jésus, a été ainsi arraché à la mort, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et non seulement il est le Fils de Dieu, mais il l'était. Il n'est pas devenu Fils de Dieu, mais il l'était dès le commencement. C'est la résurrection qui révèle en plénitude ce qui était dès le commencement. À savoir que Jésus était Fils de Dieu. Et c'est pourquoi, très vite, à partir du moment où on a déjà les récits de la passion et la résurrection, très vite, il va y avoir un mouvement vers l'arrière. On va se retourner vers les récits d'enfance. On va les mettre par écrit. Et c'est alors que Jésus sera explicitement présenté comme celui dont le nom signifie « Dieu sauve » dans l'évangile de Luc. C'est aussi dans ces évangiles de l'enfance qu'on aura le fameux oracle, la fameuse prophétie de Siméon, qui reconnaît en Jésus celui qui est lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Et à partir de cette nouvelle cette bonne nouvelle de la résurrection, la victoire du Christ sur la mort, à partir de cette nouvelle qui, en même temps, révèle en plénitude la filiation divine de Jésus. Bon, bien sûr, dès avant Pâques, on pouvait s'ouvrir à une certaine reconnaissance de cette filiation divine de Jésus, mais c'est seulement avec Pâques que la reconnaissance de la filiation divine de Jésus se trouve complète et parfaite et totale. Et donc, à partir de là, les apôtres, les premiers témoins de l'évangile de la résurrection, vont être conduits à affirmer avec force, d'abord en Palestine, puis progressivement en dehors de la Palestine, que Jésus est sauveur. Ce Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts, il est sauveur. Lui qui est le premier-né d'entre les morts, il est le sauveur de tous. Alors, on lit cela notamment dans les Actes des apôtres. Je me contente de rappeler une formule du chapitre 4 des Actes des apôtres, la formule de l'apôtre Pierre qui dit « Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Alors, vous me direz, mais alors comment comprendre la situation de ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ? Bon, il faudra se poser la question en temps voulu, hein, mais pour le moment, nous repérons qu'il y a chez les apôtres cette forte conscience du fait que le salut est lié au nom de Jésus, il est lié à la personne même de Jésus, victorieux de la mort. Et l'évangile, dès lors, l'évangile se définit comme la parole du salut. L'évangile, ce n'est pas d'abord un livre. Bien sûr, ça va s'exprimer à travers des livres, à travers les écrits que nous appelons les quatre évangiles. Mais l'évangile, avec un E majuscule, c'est d'abord la parole du salut, une parole qui est en même temps un événement. Une parole du salut qui est en même temps un événement du salut. Parole et événement du salut adressé aux Juifs, mais aussi aux Grecs, c'est-à-dire, finalement, symboliquement, à l'ensemble de l'humanité. Et j'ajoute simplement, et ce point est tout à fait capital, j'ajoute que ce qui valait de la période pré-pascale vaut encore de la période post-pascale, à savoir la même invitation à la foi. De même que avant Pâques, il n'y avait pas simplement des actes de Jésus sauveur, mais il y avait l'incitation à croire. Jésus disait « ta foi t'a sauvé ». De même, cela vaut aussi, ou a fortiori, de la période inaugurée par Pâques, le salut, en quelque sorte, ne s'impose pas, même après Pâques, le salut ne s'impose pas, mais les hommes sont invités à croire. Saint Paul ne cesse pas de le dire, c'est le message central de Saint Paul. Nous sommes justifiés, Paul aime bien employer ce langage sur lequel nous reviendrons, la justification. Mais pour lui, c'est une manière de dire le salut. Nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Nous sommes sauvés par Dieu, bien sûr, c'est Dieu qui sauve, mais nous sommes justifiés moyennant la foi. C'est le message central de l'Épître aux Romains. Justification moyennant la foi. Et par rapport à cette foi, il n'y a pas de privilège. Tous sont invités à croire. Les Juifs, bien sûr, mais aussi bien les Grecs. Et c'est ça qui est déterminant pour saint Paul. C'est pourquoi le critère de l'appartenance au peuple de Dieu ne dépend plus de la circoncision ou du fait qu'on observe les différentes pratiques héritées de la loi mosaïque. Non, ce qui est désormais le critère décisif, c'est la foi. Le salut est offert à tous et simplement, il incombe de répondre à cette offre du salut par la foi, mais une foi qui, de soi, n'exclut personne. Tous peuvent être sauvés si tous adhèrent dans la foi à la proposition ou à l'offre du salut. Je dis cela parce qu'on verra la semaine prochaine ou dans 3 semaines qu'à l'époque d'un certain augustinisme, eh bien, on a un peu oublié cela. On a continué à dire que Dieu apportait le salut, mais on a cru pouvoir dire que certains étaient exclus, exclus d'avance, prédestinés, prédestination à la damnation, selon un certain Jansénus au XVIIe siècle. Ça, c'est pas l'Évangile. Quoi qu'il en soit, j'espère que Jansénus est sauvé, il sera sauvé, hein, c'est pas la question. Mais là, il s'est trompé. Quoi. Bon, on en parlera quand on traitera de ces questions-là. Alors voilà donc un certain nombre de données, des données élémentaires. On pourrait bien sûr accumuler bien d'autres références hein, au salut dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, mais je me contente de cela. Je crois que ce sont les points essentiels, si vous voulez, parce que ce que je voudrais, c'est maintenant montrer, c'est ça qui nous prendra le plus de temps aujourd'hui. Je voudrais, sur cette base, essayer de développer, au fond, les axes fondamentaux d'une théologie chrétienne du salut. Voilà. Déployer les axes d'une théologie du salut sur le fondement des Écritures. De quoi s'agit-il, au fond, en perspective chrétienne? Eh bien, s'il fallait une formule brève, vous savez que Karl Rahner, à la fin de son traité fondamental de la foi, propose de réduire les enseignements fondamentaux du christianisme à quelques formules brèves. Après avoir écrit 500 pages, il dit, on va essayer de trouver quelques formules de 3 ou 4 lignes pour condenser l'essentiel de la foi chrétienne. Alors, oublions Karl Rahner, mais je fais un petit peu la même chose. Là. Si on avait, au fond, à dire en quelques mots, qu'est-ce qui est l'essentiel de l'offre chrétienne du salut, la proposition chrétienne du salut. Alors, je risque cette formule. Dieu sauve par un homme, pas sans l'homme. Voilà. Voilà la formule brève que je propose. C'est difficile de faire plus bref, hein, vous reconnaîtrez. Hein. Dieu sauve par un homme, pas sans l'homme. Alors, tout mon propos maintenant va consister à essayer de justifier cette formule brève, dans laquelle j'essaye de condenser l'ensemble des données de l'Ancien et du Nouveau Testament, surtout du Nouveau Testament, bien sûr, au sujet du salut. Premier élément donc de cette proposition, Dieu sauve. Alors, que signifie Dieu sauve? Je réponds à cette question en deux temps. Dieu sauve, ça veut dire d'abord, c'est Dieu qui sauve. On dirait que c'est la palissade. Bon, mais c'est une appelissade que je crois utile, je vais dire pourquoi. Et quand j'aurai montré cela, alors j'essaierai de préciser le contenu de cette affirmation « Dieu sauve ». Donc dans la formule « Dieu sauve », je commente d'abord le sujet, c'est Dieu qui sauve, et ensuite je commenterai le verbe « sauve ». Voilà. Alors, premier point donc, « Dieu sauve », ça veut dire « c'est Dieu qui sauve ». Je m'explique. L'insistance que je porte sur ce sujet, c'est Dieu qui sauve, c'est une insistance qui, dans l'histoire, a été fortement marquée par les églises de la Réforme au XVIe siècle. On peut dire que c'est quand même l'un des enseignements majeurs de Luther et de Calvin de rappeler que c'est Dieu qui sauve. Mais en faisant cela, Luther et Calvin ont dit quelque chose qui rejoint précisément une affirmation essentielle au christianisme. L'affirmation que c'est Dieu qui sauve, que c'est Dieu qui est la source du salut, ce n'est pas d'abord une affirmation protestante, c'est tout simplement une affirmation chrétienne. C'est d'ailleurs pourquoi cette affirmation a été reprise dans le document d'accord œcuménique entre catholiques et luthériens, au sujet de la justification, en 1999, à Augsbourg, en Allemagne, il y a eu un texte sur la justification, un texte de consensus entre catholiques et luthériens. Et dans ce texte, il est dit explicitement, ce sont des catholiques et des luthériens qui parlent d'une seule voix et qui disent explicitement « Notre foi commune proclame que la justification est l'œuvre du Dieu trinitaire. C'est Dieu qui est source de la justification. Le Père a envoyé son Fils dans le monde en vue du salut du pécheur. L'incarnation, la mort, la résurrection du Christ sont le fondement et le préalable de la justification. » Alors bien sûr, le même texte de ce document sur la justification précise un peu plus loin que ce salut advient par la foi. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais il commence par souligner que c'est Dieu qui a l'initiative du salut. C'est Dieu qui offre le salut et qui apporte le salut à quiconque s'en remet totalement à lui, avec confiance. Cette insistance sur l'initiative de Dieu, c'est Dieu qui sauve, est certainement d'un grand enjeu si on essaye de l'entendre sur le fond des attentes, des requêtes qui sont exprimées en dehors même du christianisme. Parce que, j'y ai fait référence l'autre jour, d'une certaine façon, toutes les religions, je ne parle pas ici de l'incroyance, ou de l'athéisme, mais les religions sont toutes, d'une façon ou d'une autre, habitées, au fond d'elles-mêmes, par la représentation suivant laquelle il y a, ou il doit y avoir, quelque chose qui sauve. Alors, ils vont le dire de façon diverse, suivant leur langage. Les bouddhistes parleront plutôt de la délivrance, alors que les chrétiens parlent plutôt du salut. Mais il y a toujours cette perception, cette attente fondamentale. On fait l'expérience d'être dans un monde où tout ne va pas pour le mieux, où il y a même de rudes épreuves à traverser, et on est porté par une attente, par une espérance de quelque chose qui puisse nous en délivrer ou nous en sauver. Eh bien, on pourrait dire que c'est justement cette attente ou cette espérance qui se trouve prise en charge par le christianisme à travers cette affirmation « Dieu sauve ». Pourquoi ? Eh bien parce que, justement, cette affirmation implique que l'humanité n'a pas la possibilité de se sauver par elle-même, mais qu'elle peut recevoir ce salut, ou que tout au moins ce salut lui est offert. L'affirmation « c'est Dieu qui sauve » a sans doute de fait une portée spécialement importante dans la situation d'un monde où on expérimente, on éprouve la fragilité. Tout être humain, d'une façon ou d'une autre, éprouve à tel ou tel moment de sa vie, puis certains peuples l'éprouvent plus spécialement à tel ou tel moment de leur histoire. Ils éprouvent la fragilité, la vulnérabilité, l'impuissance à se sauver soi-même, par soi-même. Et dans le monde tel qu'il est, on pourrait décliner, au fond, cette conscience d'une fragilité de diverses manières. Par exemple, on pourrait dire, quel avenir pour l'humanité si l'humanité voit s'épuiser ses ressources ? Quel avenir pour l'humanité si l'écart entre la richesse de certaines populations et la pauvreté d'autres ne cesse de s'accroître, etc. Quel avenir aussi pour l'humanité si des êtres humains font l'expérience de violences ou de guerres plus meurtrières que jamais. Mais précisément, à cause de la conscience de cette fragilité, à cause de la conscience de ces épreuves, nous sommes dans une situation dans laquelle peut résonner de façon toute particulière cette formulation « Dieu sauve ». Au fond, la conscience même d'une impossibilité à se sauver par soi-même dispose, en quelque manière, à recevoir l'annonce « c'est Dieu qui sauve ». En disant cela, bien sûr, je repense à l'objection qui était formulée par Martin Buber et dont je parlais la semaine dernière. Nous sentons, nous voyons la non-rédemption du monde. Et je crois que justement, à la lumière de cette proposition chrétienne du salut, c'est Dieu qui sauve, nous comprenons mieux que la foi chrétienne ne dispense pas d'attendre une délivrance, un salut, qui, pour une part, n'est pas encore manifesté. C'est le paradoxe de l'espérance chrétienne, c'est-à-dire qu'à la fois nous croyons en Christ sauveur, déjà venu, mais en même temps nous attendons un salut dont la pleine manifestation n'est pas encore donnée. Alors, pour illustrer cela, on peut s'appuyer spécialement sur saint Paul. Je pense en particulier au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendons l'adoption, la délivrance pour notre corps, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or ce qu'on espère n'est plus espéré. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Alors, cette formule est tout à fait essentielle. C'est une manière, au fond, de préciser la portée de l'expression « Dieu sauve » ou « c'est Dieu qui sauve ». « C'est Dieu qui sauve », cela veut dire, du point de vue chrétien, cela veut dire « nous avons été sauvés par le Christ, moyennant la foi ». Mais « c'est Dieu qui sauve », ça veut dire en même temps nous restons tendus, nous restons en attente d'une pleine manifestation du salut promis. Paradoxe, paradoxe dont je parlais déjà l'autre jour. Dire Dieu sauve ou dire c'est Dieu qui sauve, c'est dire d'un côté Dieu nous a offert le salut en Jésus-Christ, mais c'est dire aussi justement parce que c'est Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ, nous attendons encore et nous espérons encore une délivrance qui vient de Dieu. Et nous l'attendons aujourd'hui plus que jamais, pas seulement pour les individus que nous sommes, mais pour l'humanité et pour le monde lui-même. Voilà ce que recouvre l'expression « c'est Dieu qui sauve ». Elle dit quelque chose qui est advenu et elle dit en même temps quelque chose qui est en avant de nous, mais quelque chose que nous avons aussi à attendre, quelque chose dont nous ne pouvons pas prendre l'initiative, mais que nous avons à attendre et à espérer. Alors ça, c'est le commentaire du sujet. Dieu sauve. C'est Dieu qui sauve. Maintenant, il faut aussi alors tenter de donner le contenu de l'expression Dieu sauve. Il faut s'intéresser au verbe même, sauver. Que veut-on dire quand on dit Dieu sauve? C'est-à-dire en quoi consiste cet acte de sauver ou de délivrer que nous attribuons à Dieu? Eh bien, à la lumière des Écritures, on peut souligner que cet acte de sauver prend des formes extrêmement diverses. Il a pris déjà des formes diverses dès l'histoire antérieure à la venue du Christ. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Par exemple, l'expérience de libération vécue par le peuple avec l'Exode, ou encore l'expérience vécue avec le retour de l'exil à Babylone. C'était déjà, au fond, des expériences partielles du salut, seulement partielles, mais néanmoins réelles. On faisait l'expérience d'être un peu sauvé, même si on savait que ce n'était pas un salut complet ni définitif. C'était une expérience encore limitée. D'ailleurs, elle était limitée dans le cas de l'Exode, par exemple. Cette expérience du salut était limitée pour une raison toute simple, c'est que Israël était sauvé, mais pas l'Égypte. Donc le salut ne pouvait pas encore être un salut complet, tant qu'il manquait l'Égypte. Pas d'ailleurs, la littérature prophétique porte en elle l'espérance que Dieu puisse rassembler son peuple depuis l'Égypte aussi, en incluant l'Égypte, pas seulement Israël. Visée universaliste de l'espérance d'Israël. Donc, en tout cas, il y avait déjà, avant la venue du Christ, ce que j'appelle des expériences partielles d'être sauvé. Mais le Nouveau Testament confirme et précise le contenu de l'expression « Dieu sauve ». Le Nouveau Testament confirme le contenu du mot même, « sauver », du verbe « sauver ». Ce contenu, désormais, trouve sa réalisation parfaite en quelqu'un, Jésus, dont le nom même signifie « Dieu sauve ». j'aurai l'occasion tout à l'heure de préciser ce que recouvre cette formule « Dieu sauve par Jésus »,« Dieu sauve par un homme ». Mais pour le moment, je crois qu'il faut simplement enregistrer le contenu concret de l'expression « Dieu sauve » à partir du Nouveau Testament. Dieu, effectivement, sauve des hommes et des femmes à travers Jésus. Ce que fait Jésus à travers sa vie, par ses gestes, ses actes de pardon, par les guérisons qu'il opère, etc., cela même contribue à désigner le contenu du salut. Ce contenu du salut, il peut être déployé de la façon suivante. Dieu sauve, cela veut dire, par exemple, Dieu libère le cœur des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes empêtrés par la faute, par la culpabilité, par le péché, ben, Dieu les sauve en Jésus. Comme il le fait pour la pécheresse pardonnée, comme il le fait pour Zachée, etc. Dieu sauve, dans le Nouveau Testament, cela veut dire aussi Dieu réconforte, Dieu soulage, Dieu console. Dieu rend heureux. C'est autant de manières de décliner le contenu du salut. Et ce réconfort ou cette consolation dans le Nouveau Testament, il passe parfois par des actes très concrets de guérison. Guérison qui, comme telle, ne doit pas être rigoureusement identifiée au salut, parce qu'on peut être malade et en même temps sauvé, de même qu'on peut être en bonne santé et être cependant pécheur. Donc le Nouveau Testament prévient ou empêche une espèce d'identification immédiate qui traîne souvent dans nos consciences entre guérison et salut. Mais il reste que quelque chose du salut se trouve au moins signifié dans ce moment des évangiles par des gestes de guérison corporelle ou des actes de guérison corporelle. Là encore, de façon limitée, parce que les hommes ou les femmes qui sont rendus à la santé reste néanmoins dans une existence sous le signe de la mort. Et un jour, ils mourront, ou ils sont morts. Et donc, cette guérison corporelle qui signifie quelque chose du salut opéré par Dieu via le Christ, eh bien, cela ne désigne pas encore un salut définitif qui serait la victoire sur la mort. Mais c'est néanmoins déjà, là encore, une expérience partielle du salut. Alors, la détermination, le contenu définitif, décisif du salut, c'est celui qui advient avec la résurrection. Je m'appuie sur ce que je disais tout à l'heure. Paradoxalement, ce qui va fonder de façon décisive le contenu du salut chrétien, ce n'est pas ce que Jésus fait pour d'autres, mais c'est ce que Dieu fait pour son Fils sur la croix. Lorsque, après la crucifixion, il le relève d'entre les morts. C'est là vraiment que le contenu du salut se trouve ultimement précisé, le salut comme victoire sur la mort. Naturellement, ceux et celles qui croient au Christ et qui sont baptisés dans le nom du Christ demeurent des hommes et des femmes dans l'histoire et seront donc soumis un jour à l'échéance de la mort et en ce sens-là ne sont pas encore sauvés. Disons, le salut n'est pas encore manifesté pleinement pour eux. Et néanmoins, ils sont déjà sauvés. On retrouve le paradoxe dont je parlais tout à l'heure. Ceux qui croient, ceux et celles qui croient au Christ, déjà bénéficient de l'offre du salut, même si le salut plénier ne sera pour eux pleinement manifesté que par-delà la mort, lorsqu'ils seront à leur tour ressuscités avec le Christ victorieux de la mort. Voilà, je vais m'en tenir là, on va faire une pause, et après la pause, alors j'aborderai les suites, essayant notamment d'expliquer les deux formules, Dieu sauve par un homme, et Dieu sauve par un homme, pas sans l'homme. Si vous avez quelques questions, d'ailleurs, pour ce que je viens de dire, je pourrais répondre au début de la, juste après la pause. Alors, sur le premier point, il faut s'entendre, je crois que il me semble que la question, c'est de s'entendre sur le sens du mot sauver. Hein. Parce que dans un sens courant, banal, on peut dire, dans la situation, l'expérience courante de tous les jours, j'avais un souci, puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a tiré d'affaire, ça m'a sauvé. Alors on peut dire ça, il n'y a pas de problème. Et on peut dire en effet légitimement que les progrès de la médecine ou de bien d'autres sciences permettent de nous sauver concrètement dans ce genre de situation. Enfin, la découverte des antibiotiques permet de se sauver ou d'être sauvé là où on serait mort il y a quelques décennies. Enfin, ça tout à fait. Hein. Mais le sens spécifique du mot salut dans la tradition biblique vise autre chose. Ça vise une situation dans laquelle précisément, même avec toutes les ressources de son travail, de son savoir-faire, de son industrie humaine, l'être humain fait l'expérience de ne pas pouvoir s'en tirer. Voilà. C'est ça l'expérience, me semble-t-il, fondamentale dont témoigne la tradition biblique. En d'autres termes, à supposer qu'on puisse continuer, il faut souhaiter hein, qu'on continue à surmonter quantité de difficultés, d'obstacles grâce au progrès de la science, il reste toujours quand même des zones absolument inaccessibles, des zones qui sont pas, dont des problèmes, si vous voulez, dont la solution ne peut pas dépendre de l'être humain. Alors, avant tout, parce que l'être humain est marqué par la finitude, hein, et que quels que soient les progrès de la science, il y a quand même cette butée, cette limite fondamentale. Or, l'espérance chrétienne du salut inclut justement, par là d'ailleurs je vais en venir à la seconde question que vous souleviez, elle inclut cette promesse d'un dépassement de la mort même. Mais indépendamment de cet aspect, toujours pour en rester à la première question, le salut tel que le comprend la Bible joue par rapport à toutes ces expériences ordinaires ou extraordinaires dans lesquelles on fait l'expérience de ne pas pouvoir s'en tirer tout seul. Un être humain qui est enfermé dans le désespoir, ça arrive, et qui fait l'expérience de ne pas pouvoir s'arracher tout seul au désespoir. Il fait l'expérience que même le réconfort, la consolation des autres ne suffisent pas pour cela. Et finalement, c'est de Dieu seul qui peut attendre le salut. Voilà, ça c'est l'expérience biblique. Les psaumes nous montrent ça constamment. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Et souvent les ennemis, ce sont les ennemis en moi-même, les ennemis qui m'assaillent. Le salut, dans la tradition biblique, c'est au fond la réponse de Dieu à une situation dans laquelle on fait l'expérience douloureuse de l'impossibilité humaine. Mais voilà, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le salut intervient là. Non pas comme quelque chose qui devrait dispenser ou dissuader les êtres humains de continuer à faire tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils doivent faire pour améliorer les conditions de la vie. Ça, il faut absolument le faire et s'en réjouir. Mais justement, tous les efforts possibles et imaginables de l'être humain individuel ou de l'humanité en tant qu'un ensemble collectif ne permettent pas de venir à bout d'un certain nombre de situations, de questions dans lesquelles on fait l'expérience de ne pouvoir être sauvé que par Dieu. C'est ça, je crois, la pointe vraiment de l'enseignement. Alors, d'où la question, d'ailleurs, qui peut être légitimement posée. Si aujourd'hui l'être humain a l'impression de pouvoir s'en tirer tout seul, alors évidemment, ça sera très difficile pour lui de lui annoncer le salut tel que le comprend tel qu'il est compris dans la perspective chrétienne. C'est pourquoi je pense que cette manière, le christianisme aujourd'hui se trouve confronté à une double exigence, un peu paradoxale. D'un côté, encourager les êtres humains à continuer à faire tout ce qu'ils peuvent pour vaincre les difficultés de tous ordres qui se présentent sur leur route, mais en même temps, les aider à comprendre, les aider à reconnaître lucidement que, d'une façon ou d'une autre, ils sont fragiles, qu'il y a en eux, de toute façon, une vulnérabilité qui demeure et que de cette vulnérabilité, Dieu seul peut les sauver. Voilà, il me semble que c'est un peu la ligne qui peut être tenue. Alors, sur le second point, que la résurrection, qu'on ne puisse pas le vérifier, puisqu'on n'a pas l'expérience d'un homme, d'un être humain qui ait été ressuscité. Alors, disons, au regard de la foi chrétienne, cette expérience a déjà été donnée, justement. Elle a été donnée dans un cas, au moins, qui est celui de Jésus. Voilà. Alors, bien sûr que nous ne voyons pas nos défunts, les défunts de nos proches, nos amis, nous ne les voyons pas, nous ne les avons pas vus ressusciter. Mais nous croyons que cette victoire sur la mort est advenue au moins dans un cas, celui de Jésus. Et nous pouvons aussi dans la foi, enfin la foi de l'Église quand même invite, à reconnaître aussi que justement des hommes, des femmes qui ont atteint un certain degré d'union à Dieu sont déjà présents auprès du Christ ressuscité. Même si ce n'est pas encore la résurrection au dernier jour, ce qu'on appelle la communion des saints. Voilà. Alors, c'est sur le fondement, c'est ce que dit saint Paul, par exemple, au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, c'est sur le fondement de cette résurrection qui a déjà eu lieu dans l'histoire, événement sans précédent dans l'histoire, ainsi qu'en témoignent les saintes femmes, les témoins des apparitions, etc. C'est sur le fondement de cet événement qui a eu lieu une fois dans l'histoire, en Jésus, que nous espérons notre propre résurrection pour la fin des temps. C'est pourquoi j'insistais tout à l'heure sur ce paradoxe de l'attitude chrétienne, qui à la fois témoigne d'un salut déjà advenu sous la forme radicale de cette résurrection d'entre les morts, en Jésus, et témoigne en même temps d'une attente d'un salut à venir, au sens où saint Paul dit au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Parce que, tant que nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas encore ressuscités complètement. Paul pousse le paradoxe très loin, puisque dans l'Épître aux Colossiens, il va jusqu'à dire à ceux à qui il s'adresse, il leur dit, vous êtes déjà ressuscités. En même temps, Paul sait bien que ces gens à qui il s'adresse ne sont pas encore passés par la mort, donc ils ne sont pas encore ressuscités au sens total où le Christ est ressuscité. Néanmoins, ils sont déjà ressuscités au sens où, justement, ils vivent de la vie du Christ, dès maintenant, dans les conditions de cette vie. Mais cette vie avec le Christ ne sera pleinement manifestée que lorsque, par-delà la mort, ils seront, à leur tour, ressuscités avec le Christ. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais enfin, c'est aux deux questions. Oui. Oui. Oui, c'est-à-dire que la promesse a pour objet le salut, on pourrait dire ça. La promesse, c'est l'une des expressions que prend l'attente de ce salut à venir. La promesse. Ouais. Mais justement, l'alliance. Alors, l'alliance, ce n'est pas une catégorie qui est tout à fait du même ordre, hein, mais disons, fait partie aussi de l'alliance, la reconnaissance de. La relation d'alliance inclut l'idée que justement, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Et le fait qu'il ne doive pas abandonner son peuple se manifestera précisément par le salut à venir. Donc, de fait, on pourrait très bien aussi convoquer ces concepts de promesse et d'alliance, hein, dans la perspective d'une réflexion sur le salut. Oui, tout à fait. Alors, disons, c'est l'un et l'autre, quoi. Ça dépend de la perspective qu'on prend. C'est-à-dire, Dieu offre le salut à tous, moi je dirais cela, mais Dieu sauve ceux qui se laissent sauver. Voilà, c'est pourquoi on peut dire les deux. Alors, Dieu offre le salut à tous, ça je vais le redire d'ailleurs très bientôt, hein, je crois que c'est une affirmation fondamentale dans le Nouveau Testament, Mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi l'idée de la liberté humaine. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'anticipe un tout petit peu sur le troisième point, Dieu sauve l'homme, pas sans l'homme. C'est-à-dire, il y a requis le consentement de la liberté humaine. Dieu ne sauve pas l'homme malgré lui. Alors, j'enchaîne avec le deuxième versant. Donc, après avoir essayé de préciser le contenu ou la portée de cette expression « Dieu sauve », nous pouvons en venir à un deuxième versant de la formule. Ce qui ressort des Écritures, c'est que Dieu sauve par un homme. Donc l'accent maintenant va porter sur cette formule « par un homme ». Alors « par un homme », en fait, c'est une citation. C'est une citation des Actes des Apôtres, plus précisément du discours de Paul aux Athéniens, au chapitre 17 des Actes des Apôtres, versets 30-31. On rappelait ce discours, Paul dit aux Athéniens, vous êtes un peuple très religieux, j'ai même trouvé en promenant à Athènes un autel aux dieux inconnus. Très bien, Dieu vous a accordé beaucoup de bienfaits. Mais voici que, je cite, voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. C'est remarquable que ici d'ailleurs, Paul ne nomme pas Jésus, hein, mais il dit maintenant, Dieu a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme, et cet homme, il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc la pointe, hein, c'est de dire que cette offre de Dieu, cette offre du salut, désormais accordée, maintenant, comme dit saint Paul, comme dit Paul dans le texte des Actes en tout cas, cette offre du salut, elle passe par un homme qui a été ressuscité. Voilà ce précédent dont je parlais, hein, c'est un événement déjà venu dans l'histoire, c'est exactement ce à quoi Paul fait référence ici. Il y a quelque chose de nouveau qui est advenu, puisqu'il y a un homme que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Voilà. Alors, on peut aussi faire référence à une autre formule très importante de saint Paul, cette fois dans les Épîtres pauliniennes, dans la première Épître à Timothée, donc c'est un texte que je cite dès maintenant, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir, hein, quand il s'agira notamment des débats autour de l'universalité du salut. Donc, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 4-5, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Formule à retenir. Hein. « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Donc, tous ceux ensuite dans l'histoire qui voudront dire « Oh ben, y a des gens qui sont d'emblée exclus du salut, ces gens-là, ils avaient tout simplement oublié de lire ce verset, ou ils l'avaient mal compris. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mais je cite surtout le verset à cause de ce qui suit, « Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. » C'est une formule tout à fait remarquable, parce que en l'espace de deux versets, Paul nous dit tout à la fois, premièrement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, deuxièmement, Dieu est unique, et troisièmement, unique aussi est le médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un esprit céleste. Il est homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous. Donc, Dieu sauve par un homme. En d'autres termes, l'annonce chrétienne du salut, c'est l'annonce d'un médiateur. C'est pas simplement l'annonce de Dieu qui sauve, c'est l'annonce de Dieu qui sauve par un homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Je ne fais que gloser la formule de la première épître à Timothée. C'est intéressant de reconnaître que là aussi, cela a beaucoup de sens si on situe cela sur le fond de l'histoire religieuse de l'humanité. Parce que quand on regarde de près, là encore, toutes les religions, plus ou moins, ont vaguement l'idée d'une médiation. Alors, ça va être des choses très différentes. Dans le judaïsme, la première médiation, c'est la Torah. Dieu se communique d'abord par la Torah. Mais prenez une toute autre religion, par exemple le bouddhisme, l'hindouisme, disons d'abord, l'hindouisme, Dieu, ou les dieux, ou le divin, dans le cadre de l'hindouisme, se communique, se manifeste par le dharma. Le dharma, ce qu'on appelle le dharma dans l'hindouisme, qui est donc aussi une sorte de médiation. Bon, dans le taoïsme, ce sera le tao, justement, la voix, etc. Donc finalement, toutes les... Je disais tout à l'heure, les religions ont toutes plus ou moins la perception d'un au-delà dont on attend la délivrance ou le salut. Mais toutes les religions ont également plus ou moins l'attente confuse ou la perception plus ou moins précise d'une médiation à travers laquelle cette délivrance ou ce salut peut être communiqué. Eh bien, dans le cas du christianisme, cette médiation, en fait, elle est liée à un homme, le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est ça, l'originalité absolue, évidemment, du christianisme par rapport à l'islam, hein, parce que Mahomet n'est pas médiateur dans l'islam. Hein, c'est une médiation au sens large, un intermédiaire. Il transmet le Coran, mais il n'est pas médiateur au sens strict, au sens où Mahomet n'est pas compris par les musulmans comme étant à la fois Dieu et homme. Il n'y a pas non plus de médiation au sens strict dans le cas du Bouddha. Le Bouddha est un homme, purement simplement, même si c'est un homme éminent. L'originalité absolue du christianisme, de ce point de vue-là, c'est que tout en intégrant cette attente, cette réalité d'une forme de médiation qu'on trouve plus ou moins dans toutes les religions, le christianisme caractérise cette médiation comme étant une médiation au sens strict, c'est-à-dire la médiation assurée ou exercée par quelqu'un qui est en sa propre personne, inséparablement, fils de Dieu et homme. Dieu et homme, vrai Dieu et vrai homme. Donc Dieu sauve par un homme. Alors, j'ai un petit peu anticipé déjà dans le premier temps, quand je commentais l'expression « Dieu sauve », en faisant remarquer que, avec le Nouveau Testament, nous voyons bien que Dieu sauve en Jésus, puisque Dieu accomplit en Jésus et par Jésus des actes sauveurs, tels que, par exemple, le pardon des péchés. Mais ce que je voudrais ajouter maintenant, c'est ça la pointe exacte de ma deuxième formule, Dieu sauve par un homme. Ce que je voudrais ajouter maintenant, c'est que, justement, l'annonce chrétienne du salut consiste en ce que Dieu ne sauve pas purement et simplement par lui-même, mais Dieu sauve par lui-même devenu chair, par lui-même devenu homme, par un homme. Saint Irénée, au IIe siècle, redit cela d'une façon admirable. Dans les termes suivants, il dit, Saint Irénée, donc, qui était évêque de Lyon vers 180 à peu près, il disait ceci, « Nous ne pouvions pas apprendre les mystères de Dieu, ou plutôt nous ne pouvions apprendre les mystères de Dieu que si notre maître, tout en étant le Verbe, se faisait homme. » D'une part, en effet, nul n'était capable de révéler les secrets du Père, sinon son propre Verbe, mais d'autre part, nous ne pouvions les apprendre autrement qu'en voyant notre Maître et en percevant de nos propres oreilles le son de sa voix. Voilà. Donc, si on raisonne dans l'abstrait, la théologie fiction, qui est une mauvaise théologie, on peut toujours dire, bon, ben, de soi, Dieu aurait très bien pu sauver directement, immédiatement, ou à la limite, par des envoyés, par des anges, voilà. La révélation centrale du christianisme, à propos du salut, c'est que ce salut de Dieu, il advient par Dieu devenu homme. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il advient par un homme? Cela veut dire que Dieu n'impose pas à l'humanité un salut dont le chemin n'aurait pas été d'abord librement assumé par un homme. Dieu sauve par un homme. Je m'explique un tout petit peu, parce que là on touche un point délicat. J'explicite les choses en m'appuyant ici sur l'épisode des tentations au désert. Jésus tenté au désert, ainsi que le rapportent les trois évangiles synoptiques. Bon, souvent, on comprend cet épisode en disant, de toute façon, il n'y avait pas de problème, les jeux étaient faits d'avance, puisque Jésus était le Fils de Dieu, c'est évident qu'il repousserait les tentations du tentateur. Il n'était pas vraiment libre. À la limite, il n'avait pas beaucoup de mérite. De toute façon, comme il était fils de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais justement, c'est une erreur. C'est une lecture erronée de l'épisode des tentations. Car en fait, Jésus, pleinement homme, a répondu avec toute sa liberté aux assauts du tentateur. Dieu sauve par un homme, ça veut dire non pas simplement Dieu se sert d'un homme pour faire ce qu'il veut faire, mais ça veut dire Dieu respecte la liberté de cet homme pleinement, jusqu'au bout. Un peu au 7e siècle de notre ère, il y a un père de l'Église qui s'appelle Maxime le Confesseur, s'est battu avec la plus grande énergie contre certains chrétiens qui disaient « Bon, le Christ, il est le Fils de Dieu, bien sûr. Admettons qu'il a à la fois une nature divine et une nature humaine, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, d'accord. Mais quand même, puisqu'il est Fils de Dieu, il faut dire qu'il a eu une seule volonté, c'est-à-dire que sa volonté humaine a été en quelque sorte absorbée par le vouloir de Dieu. Bon, ces gens-là, on leur donnait un nom. On les appelait les monothélites. Monos, qui veut dire un seul. Et télein, le verbe télein, qui veut dire vouloir. Donc des gens, c'est monothélites. C'était des chrétiens de bonne foi, des chrétiens de bonne foi, mais qui disaient, puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en fait, il n'a pas eu de volonté humaine autonome. Tout ce qu'il faisait, lui était dicté directement par Dieu le Père. Et il s'appuyait notamment pour cela, les monothélites s'appuyaient pour cela notamment sur l'épisode de Gethsémani, puisque Jésus dit non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Bon, voilà. Fusion complète entre sa volonté humaine et la volonté de Dieu. Or, Maxime le Confesseur s'est opposé radicalement à la position de ces chrétiens monothélites. Et au nom du même épisode de Gethsémani, parce qu'il leur a répondu justement, dans l'épisode de Gethsémani, que dit Jésus? Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce qui prouve bien que Jésus-Christ n'était pas, si je puis parler familièrement, comme une sorte de marionnette, comme ça, dont Dieu le Père faisait ce qu'il voulait, ou aurait voulu faire ce qu'il voulait. Jésus était pleinement libre il assumait pleinement sa volonté humaine autonome. Même si, en dernier ressort, bien sûr, et même dès le point de départ, son désir profond était de communier à la volonté de son Père. Et ça, voilà, son humanité était pleinement libre et autonome, même si justement, avec toute sa liberté et toute son autonomie, Jésus a fait choix, d'un bout à l'autre, de s'abandonner à la volonté de son Père. Donc Dieu sauve par un homme, cela implique ce que je viens de dire. Cela implique que le salut n'advient pas automatiquement, magiquement, de la part de Dieu, mais qu'il nous a été offert concrètement par la médiation d'un homme qui a vécu pleinement la condition humaine en toute chose, excepté le péché. Alors, on pourrait être tenté d'objecter que Dieu ne sauve pas tout à fait par un homme, puisque l'homme dont il s'agit est inséparablement le Fils de Dieu. Cette objection, elle existait dans l'histoire. On lui donne un nom, le docétisme. Dokein, qui veut dire sembler, paraître, le docétisme, c'est ce courant qui a existé très tôt, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, ce courant qui consistait à dire Jésus est apparu comme un homme, mais justement, c'était seulement une apparence. Puisqu'il était le Fils de Dieu, il avait dû prendre un semblant d'humanité. Le docétisme n'a pas été seulement limité au deuxième ou troisième siècle de l'ère chrétienne. Le docétisme réapparaît à toutes les époques. Et on est peut-être tous quelquefois un peu docètes sans le savoir. Voilà. Or justement, ce docétisme ne reflète pas le témoignage des Écritures. Le témoignage des Écritures, c'est que le devenir homme du Fils de Dieu, l'humanité du Fils de Dieu, ce n'est pas une sorte de composé, ou ce n'est pas une sorte de mixte, il y aurait simplement une apparence d'humanité. Non, non, en fait, ce que signifie ce devenir homme du Fils de Dieu, ce que cela signifie, c'est que le Fils de Dieu, a été pleinement homme et qu'il est demeuré Fils de Dieu dans l'événement même de devenir homme. Ou, pour le dire en d'autres termes, le Fils de Dieu n'est pas moins homme du fait qu'il est Fils de Dieu. Voilà. Le Fils de Dieu n'est pas moins homme du fait qu'il est Fils de Dieu. Au contraire, il se révèle comme Fils de Dieu à travers l'excellence même de son humanité. Alors, bien sûr, Jésus a été perçu dans sa vie terrestre, Jésus a été perçu comme accomplissant les actions mêmes de Dieu. On le lui reproche d'ailleurs. Qui donc peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Mais précisément, toutes les actions de Jésus, que ce soit l'action de pardonner ou l'action de guérir, etc., enfin, toutes les actions qui sont attribuées à Jésus dans les évangiles synoptiques ou dans l'évangile de Jean, sont toujours des actions accomplies par un homme. Qu'est-ce que voyaient les Juifs qui était présent dans la maison où on avait descendu le paralytique? Il ne voyait pas Dieu, il voyait un homme. Alors, s'il voyait bien, il pouvait voir en même temps que cet homme était le Fils de Dieu. Mais de soi, beaucoup pouvaient simplement en rester au constat de cette humanité. Ce qui confirme bien que c'est vraiment un homme, perçu comme un homme, qui accomplissait les actions miraculeuses, extraordinaires, paradoxales, dont je parlais tout à l'heure. Donc Dieu assurément sauve, c'est Dieu qui sauve, je l'ai souligné tout à l'heure, mais il sauve par un homme, pleinement homme, donc par quelqu'un qui n'a pas triché avec l'humanité, par quelqu'un qui a été jusqu'au bout un homme, jusqu'à mourir sur la croix, et donc il y a là, évidemment, une originalité absolue vraiment, de l'annonce chrétienne du salut. C'est le fait que cette offre du salut, elle passe par un homme, au sens le plus radical du mot, par un être humain qui a vécu jusqu'au bout la condition humaine. Alors, il faudrait ajouter que au cœur des paroles et au cœur des gestes de Jésus, il y a, selon le témoignage du Nouveau Testament, le don de soi jusqu'au bout. Le don de soi, ou pour employer un mot qui est classique dans le Nouveau Testament, chez saint Paul en particulier, l'agapé. Agapé, c'est-à-dire l'amour, la charité, comme on traduit aussi. Autrement dit, si Dieu sauve par un homme, s'il sauve par cet homme Jésus, c'est parce que cet homme Jésus, en qui nous reconnaissons dans la foi le Fils de Dieu, cet homme Jésus révèle et manifeste dans son humanité même l'énergie, la force d'un don de soi sans limite. Un don de soi sans limite. Rappelons-nous le début du chapitre 13 de l'évangile de Jean. Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans ce monde, les aima jusqu'au bout. Et donc le chemin du salut, en perspective chrétienne, sur le fondement des Écritures, le chemin du salut passe par là. Le chemin du salut passe par ce don de soi total, tel qu'il a été vécu, manifesté par Jésus tout au long de son existence, et plus que tout, bien sûr, le soir de la scène et à l'heure de la passion. Dieu sauve donc par un homme. Dieu sauve par un homme qui sauve et qui ne sauve par rien d'autre que par le don de soi qu'il manifeste à travers toute sa vie. Mais j'ajoute toujours dans ce deuxième point, Dieu sauve par un homme, j'ajoute une dernière précision qui est capitale. Non seulement Dieu sauve par un homme qui sauve, mais aussi Dieu sauve par un homme qui est lui-même sauvé. Dieu sauve par un homme qui est lui-même sauvé. Alors attention, non pas sauvé du péché, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure, j'ai rappelé la formule de saint Paul. Dieu, Fils de Dieu, assumer notre condition humaine en toute chose, excepté le péché. Ce n'est donc pas du péché que cet homme, Jésus, avait à être sauvé, puisqu'il n'était pas pécheur. Mais il a été sauvé, néanmoins. Il a été sauvé de quoi ? De la mort. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le Nouveau Testament qui le dit. Une fois, il y a un seul passage dans le Nouveau Testament où cela est dit, c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Disons, il y a un seul passage où cela soit dit explicitement, que Jésus a été sauvé, c'est dans le chapitre 5, chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, versets 7 à 10, je lis. C'est lui, il s'agit du Fils de Dieu, du Christ, hein, c'est lui qui, au jour de la chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, puisqu'il a été salué par Dieu du titre de grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Ce que je retiens de cette formule, c'est l'expression « sauvé ». Jésus, ayant crié, ayant pleuré, avec une violente clameur et des larmes, il a présenté des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire à Dieu le Père, qui pouvait le sauver de la mort. Donc ce passage, très important, dit explicitement ce qui est bien sûr implicite dans d'autres passages du Nouveau Testament, à savoir que non seulement Dieu sauve par un homme Jésus qui sauve, mais Dieu sauve par un homme, Jésus, le Fils de Dieu, qui est lui-même sauvé au sens sauvé de la mort, sauvé des limites spatio-temporelles dans lesquelles la condition humaine se trouve incluse. Et c'est précisément parce que Jésus, le Fils de Dieu, a été lui-même sauvé, au sens que je viens de dire, sauvé de la mort, c'est pour cette raison même qu'il est reconnu par la communauté chrétienne, après Pâques, comme principe de salut éternel, comme le dit l'Épître aux Hébreux, principe de salut éternel. Il n'y aurait pas de salut, hein, il n'y aurait pas d'annonce chrétienne du salut si le Fils de Dieu lui-même, tout Fils de Dieu qu'il fût, n'avait pas été lui-même sauvé de la mort. Et c'est pourquoi je reviens au point d'où j'étais parti, dans ce deuxième versant de la formule. C'est pourquoi Paul dit avec rigueur, dans les Actes des Apôtres, dans le discours aux Athéniens, Dieu fait savoir aux hommes qu'ils ont à se repentir par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Dire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est dire que Dieu a sauvé Jésus de la mort. Donc l'annonce chrétienne du salut, je conclue ce deuxième point, l'annonce chrétienne du salut est inséparable de la foi en la résurrection. Et il vaut ici la peine de remarquer que cette foi en la résurrection, c'est la foi en quelque chose d'absolument définitif. La foi en la réincarnation, la foi en la résurrection, justement, diffère de ce point de vue d'une croyance en la réincarnation qui réintroduirait, la croyance en la réincarnation réintroduirait dans une existence différente de celle-ci, mais néanmoins également soumise aux limites spatio-temporelles. Tandis que la foi en la résurrection, c'est la foi en un événement qui introduit du définitif, le fameux « une fois pour toutes » de l'Épître aux Hébreux, « Ephapax, une fois pour toutes », un affranchissement définitif de la mort. C'est bien de ce salut, d'un salut de ce type, que Jésus bénéficie en tant que premier-né d'entre les morts, selon l'Épître aux Colossiens, et c'est donc aussi ce salut qui fait dès lors l'objet de l'espérance chrétienne. Donc, Dieu sauve par un homme qui sauve et qu'il sauve. Voilà. Il reste à commenter le dernier élément de la formule. Dieu sauve par un homme, pas sans l'homme. Pas sans l'homme, je transpose ici une expression, mais je change complètement de contexte. Je transpose ici une expression qui était volontiers employée par Michel de Certeau, notamment dans son livre « L'étranger ou l'union dans la différence ». Il expliquait que, justement, il mettait en évidence l'importance de la relation à l'autre dans la constitution de l'identité. Voilà. On n'est pas soi-même sans l'autre, pas sans l'autre. Alors, je m'inspire de cette formule, mais j'oublie complètement Michel de Certeau. Je la convoque au profit, si vous voulez, de ma propre réflexion ici. Dieu sauve par un homme, pas sans l'homme. Qu'est-ce que veut dire ce troisième élément de la formule ? Pourquoi dire que Dieu sauve, pas sans l'homme ? Et on pourrait d'emblée d'ailleurs me formuler l'objection. Pourquoi dire que Dieu sauve, pas sans l'homme ? Pourquoi ne pas dire plus simplement, et ce serait plus correct du point de vue grammatical, Dieu sauve avec l'homme ? Au lieu de dire Dieu sauve, pas sans l'homme, pourquoi ne pas dire plus simplement Dieu sauve avec l'homme ? Bon, je n'ai rien contre la formule « Dieu sauve avec l'homme », si elle est bien comprise. Cette formule « Dieu sauve avec l'homme », elle n'est pas sans justification, surtout si l'on se rappelle l'usage. Ergeia, la synergie, action avec, œuvre avec, synergeia. Les pères de l'Église, en monde grec, insistaient beaucoup sur le fait qu'il doit y avoir une synergeia, on peut dire une coopération. D'ailleurs, le mot latin qui traduit synergeia, c'est coopératio. Une coopération, une collaboration, coopération entre l'homme et Dieu. Au sens où Dieu sauve, mais l'homme doit accueillir dans sa liberté l'offre du salut. De ce point de vue-là, Dieu sauve avec l'homme. Il faut que l'homme soit impliqué, au moins justement par sa foi, par la réponse croyante qu'il donne à l'offre de Dieu. Donc, en ce sens-là, je n'ai rien du tout contre la formule toute simple, Dieu sauve l'homme avec l'homme. Cependant, j'ai préféré éviter cette expression parce que le terme de coopération fait difficulté au regard du protestantisme. Il fait difficulté au regard du protestantisme dans la mesure où, tel qu'il est parfois compris, à tort, ce mot coopération pourrait laisser entendre que, d'une certaine manière, l'initiative du salut n'est pas en Dieu, mais qu'il y a en quelque sorte 50% de Dieu et 50% de l'homme dans le salut. Ou si vous voulez, 80% de Dieu et 20% de l'homme. Ou si vous voulez, 98% de Dieu et 2% de l'homme. Mais ça revient au même. Or, les protestants disent, ils ont raison de dire, non, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui est la source absolue du salut. En ce sens-là, le terme de coopération a quelque chose d'un peu ambigu, en effet, même si la tradition catholique l'utilise légitimement en bonne part, si vous voulez. Le terme de coopération est légitime du point de vue de la tradition catholique, et encore une fois, il est très prisé par les orthodoxes, mais à condition qu'on comprenne bien que cette coopération de l'être humain n'est pas quelque chose qui enlèverait à Dieu l'initiative absolue du salut, mais cette coopération de l'être humain dans le salut, elle entend simplement rendre compte du fait que Dieu ne sauve pas l'homme sans l'homme, c'est-à-dire sans le libre consentement de l'homme. Et c'est pourquoi, finalement, après avoir réfléchi, je préfère la formule « Dieu sauve l'homme, pas sans l'homme », qui est moins ambiguë. Elle est peut-être moins correcte du point de grammatical, mais elle est moins ambiguë. Dieu sauve l'homme, donc c'est bien Dieu qui a l'initiative, mais Dieu sauve l'homme, pas sans l'homme, au sens où il y a une responsabilité qui est requise du côté de l'homme, une responsabilité, c'est-à-dire une réponse, responsabilité, réponse, à savoir la réponse de la foi. Il me semble tout à fait essentiel de dire cela sur le fondement des Écritures telles que je les ai présentées tout à l'heure, hein, l'insistance sur la foi, dans le Nouveau Testament, ta foi t'a sauvé. Alors, qu'est-ce que c'est, ce pas sans l'homme ? Pour le dire positivement, c'est cette responsabilité qui est attendue de l'être humain par rapport à l'offre du salut. On pourrait dire tout simplement, certes, Dieu nous a offert le chemin du salut, Dieu offre le chemin du salut, Dieu offre le salut, et cette offre est universelle, rappelons-nous, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais Dieu ne fait qu'offrir cette offre, si je puis dire, il ne l'impose pas. Il ne l'impose pas. Bon, quelquefois quand même, on peut laisser à Dieu le droit, s'il le veut, de donner un coup de pouce. Hein. Paul sur le chemin de Damas, quand même, bon, c'était quand même... une manifestation, semble-t-il, très très vigoureuse de la part du Seigneur. Mais c'est vrai que ordinairement, disons, en dehors de cas exceptionnels, eh bien, il y a une pédagogie de Dieu, une pédagogie de Dieu qui se présente, qui s'offre, qui se laisse désirer, mais qui ne s'impose pas. Et donc, Dieu attend que des hommes et des femmes l'accueillent avec toute leur liberté. Il dépend de l'être humain, homme ou femme, que cette offre universelle du salut soit effectivement accueillie par eux dans la diversité des lieux et des temps. Les auteurs patristiques et médiévaux n'ont pas cessé de développer ce thème, hein, et souvent d'ailleurs de manière très très belle dans le cadre de certaines homélies, je pense à des homélies d'Origène ou des homélies de Saint Bernard, où on trouve des formules de ce type. À quoi sert que le Christ, que Jésus, soit venu seulement dans la chair, qu'il a prise de Marie, s'il n'est pas venu aussi dans ma propre chair ? Autrement dit, si moi je ne l'accueille pas librement, ou à quoi sert-il que le Christ soit mort un jour du temps, si moi je n'accueille pas en moi-même le don de sa vie. C'est une manière d'exprimer ce pas sans l'homme, cette responsabilité. Bien sûr, pour une part, il y a quelque chose qui est offert, qui est donné en ce sens-là, mais qui n'est pas pour autant imposé, et qui attend donc le libre acquiescement, le libre consentement de la part des êtres humains. C'est d'ailleurs quelque chose qui contribue beaucoup à éclairer la structure même de la célébration des sacrements dans l'Église. C'est absolument évident dans le cadre du sacrement de réconciliation. Il faut qu'il y ait le ferme propos, comme on dit traditionnellement, le ferme propos de se convertir. L'offre du sacrement est là, mais elle ne peut produire son effet que si le pénitent est réellement désireux de se convertir et de transformer sa vie. Mais on pourrait dire aussi à propos d'autres sacrements, même le sacrement de l'Eucharistie. Bon, le sacrement de l'Eucharistie, le Christ s'offre comme nourriture à qui veut bien le recevoir. Mais ce n'est pas parce qu'il s'offre, c'est pas parce que le pain et le vin sont consacrés sur l'autel que le corps du Christ va être effectivement reçu de façon fructueuse dans la vie des croyants. Il faut qu'il y ait le pas sans l'homme, il veut dire tout cela. C'est cette nécessaire implication, cette nécessaire responsabilité de l'être humain dans l'accueil du salut. Alors, j'aurai l'occasion, lorsqu'on sera vers la fin du cours, dans la dernière partie de reprise systématique, j'aurai l'occasion de montrer ce que ça veut dire concrètement. Enfin, ce pas sans l'homme, j'aurai l'occasion de montrer comment, finalement, c'est dans toutes les dimensions de l'existence humaine que l'être humain est appelé à accueillir, avec sa liberté, le salut de Dieu. Dans toutes les dimensions, économiques, sociales, familiales, dans toutes les dimensions de l'être humain. Nous verrons ça dans la dernière partie du cours. Ce que je voudrais souligner pour le moment, et je terminerai par là, c'est que ce pas sans l'homme, il implique en fait la présence de quelqu'un que je n'ai pas nommé, à savoir l'Esprit Saint. Car qu'est-ce qui, justement, dans l'expérience humaine, ou dans l'expérience ecclésiale en particulier, donne la force et l'énergie d'accueillir librement cette offre du salut, si ce n'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Alors, il aurait été possible de dire « Dieu sauve par un homme, moyennant le don de l'Esprit ». Mais il faudrait alors aussitôt ajouter « le don de l'Esprit accueilli librement par l'homme ». On retrouve la nécessaire implication de la liberté humaine. Mais entre le « Dieu sauve par un homme » et le troisième élément « pas sans l'homme », il faut entrevoir la place discrète, c'est pourquoi je ne l'ai pas nommé, mais la place réelle de l'Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui donne précisément aux libertés humaines de s'ouvrir à l'accueil du salut. Voilà, me semble-t-il, une sorte de présentation synthétique, si vous voulez, des grands axes, des grandes orientations d'une théologie chrétienne du salut sur le fondement des Écritures et plus spécifiquement sur le fondement du Nouveau Testament. Alors, ceci va nous servir en quelque sorte de toile de fond, de critères, de normes pour toute la suite. La prochaine fois, nous allons nous engager dans la deuxième partie du cours, donc la tradition de l'Église. Nous essaierons de voir, pas seulement la prochaine fois, mais aussi dans 3 semaines, ça prendra plusieurs séances, nous essaierons de voir comment on a pensé le salut chrétien dans l'histoire de l'Église, à travers quels débats, à travers quelles controverses parfois. Mais à chaque fois, nous pourrons nous demander, est-ce que ce qui a été dit à tel ou tel moment, à l'époque de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin, de Luther, du Concile de Trente, est-ce que c'est cohérent ou non avec cette théologie chrétienne du salut telle qu'elle émerge du fondement scripturaire. Quand nous aurons fait ce parcours, bien il sera possible, tout à fait au terme, de proposer à nouveau une esquisse systématique pour essayer de dire comment l'annonce chrétienne du salut peut effectivement pénétrer aujourd'hui toutes les dimensions de l'existence humaine. Voilà. Eh bien, à jeudi prochain.